Et salut à tous, et bienvenue dans Parlons Ciné, la mensuelle, l'émission où l'on n'évoque pas l'actualité ni les sorties ciné de la semaine sur Radio Campus, car en effet, à notre programme, pas d'actualité ciné de la semaine, avec un point sur le box-office, ni de sortie de la semaine, car c'est un mensuel. Et à l'occasion de la sortie le 1er janvier dernier du nouveau film d'Andrea Arnold, Bird, on vous propose une rétrospective pour un hors-série d'exception sur la carrière de cette cinéaste britannique majeure du cinéma contemporain actuel, découverte en 1998 lors de la semaine de la critique à Cannes, avec son court-métrage Milk, avant de remporter l'Oscar du meilleur court-métrage en 2004 pour Wasp, une cinéaste qui peut également se targuer d'avoir remporté trois fois le prix du jury au Festival de Cannes, d'abord pour son premier long métrage Red Road en 2006, mais aussi pour son deuxième film, le sublime Fish Tank en 2009, ou encore American Honey en 2016. Après avoir réalisé entre temps une adaptation des Hauts d'Hurlevent, et avant de réaliser la deuxième saison de la série Big Little Lies en 2019, ou encore un puissant documentaire sur la maltraitance animale dans les abattoirs avec Co. en 2021, pour revenir du coup sur cette filmographie à la fois dense et riche, Adam est de retour. Salut Adam! Et j'ai coupé le micro d'Adam, évidemment, il fallait, voilà. Il fallait
et que t'as coupé le micro.
De tout le monde, voilà. Ouais, parce que voilà. Je censure tout le monde dans cette émission. Salut Adam,
super.
Comment ça
bah,
va?
Comment ça va? Bah, ça va et toi?
Et bah, ça va très bien. Et on accueille aussi un invité aujourd'hui bah, ouais. dans notre salon,
invité
j'ai envie de
déception.
Dire. Invité
dans
d'exception.
Dans notre salon, dans notre petite caravane.
C'est ça, dans la petite caravane au fond du jardin. Non, pas du tout. Pff, n'importe quoi. Je conseille de dire des bêtises, ça y est. Alors,
où
on a à peine commencé. Oui, où es-tu, Teddy?
Où es-tu, Teddy? Du coup, c'est Teddy.
Teddy de Vim, il s'appelle.
Oui, enchanté.
Salut Teddy.
Salut. Ça fait longtemps.
Ça va. Ça fait longtemps. Et c'est vrai que ça fait un petit moment.
Bah oui.
L'an dernier, on t'avait accueilli sur pour parler, je crois, de Mad Max, sur le hors-série Mad Max, il me semble.
Mad oui, Max.
Je crois que
Back
c'était
Riders,
pour ça. Ouais. Et oui, aussi pour l'émission.
Parce
Spider-Man,
que j'étais
aussi,
pas là. Du coup, il m'a remplacé.
C'est ça. Il t'avait remplacé. Et il te remplaçait très bien, d'ailleurs, au passage.
Oui.
Tiens. Voilà.
Ça c'est fait.
Voilà, voilà, la petite balle perdue.
Voilà,
moi, je t'aime bien, Adam.
J'aime bien.
Je sais, mais je sais qu'il m'aime pas.
Mais il sait très bien qu'on se déteste, voyons. Mais c'est de l'amour haine, on va dire. Mais non, du coup.
C'est de l'amour vache.
Me... Ah, c'est marrant.
Ah, bien joué, bravo.
Go, tout ça.
Ouais, tu devrais faire les transitions pour mon émission, je pense.
Non.
Je vais t'appeler plus rapidement ça. Du coup, Teddy, qui est du coup fondateur des Rencontres du cinéma britannique, dont la seconde édition aura lieu à Abbeville du 5 au 8 juin prochain.
Tout à fait.
Où j'ai l'honneur d'être responsable scolaire, d'ailleurs, sur ce festival, bénévolement. Donc voilà. Faut me payer à un moment donné, quand même, ça serait bien, non?
Moi aussi, je suis bénévole.
Oui, mais tout le monde est bénévole. C'est comme beaucoup de gens en ce milieu, j'ai envie de dire, malheureusement. Voilà, mais c'est un festival de cinéma britannique d'exception, qui a eu une première édition, qui a été plutôt un joli succès, en plus, il me semble, si je ne m'abuse. Donc voilà, donc il sera de retour en juin prochain, toujours à Abbeville. Mais il est aussi spécialiste du cinéma britannique, évidemment, c'est pour ça qu'il est là, et auteur de l'ouvrage Nouvelle voie du cinéma social britannique 2009-2021, disponible via les éditions du net actuellement jusqu'en juin prochain.
Oui, jusqu'en
il me
juin.
Semble. Voilà. Après, ça sera ailleurs peut-être.
Peut-être, je sais pas.
Voilà, tu sais pas encore.
Pour l'instant, il est disponible jusqu'en juin.
Voilà, donc jusqu'en juin, vous avez jusqu'en juin, du coup, chers auditeurs, pour commander ce livre d'exception ou dans lequel tu évoques notamment Andrea Arnold.
Évidemment.
Plus. Voilà, c'est pour ça que tu es là.
Bah oui,
bah oui, logique, sinon je t'aurais pas invité. Non, mais
je veux la lumière, voilà. Je suis rentré.
C'est ça qui démarre en 2009.
Oui,
justement.
Voilà.
Si vous avez suivi ce que Gaël a raconté, Einstein qui est sorti en 2009.
Voilà, si vous avez bien écouté mon texte d'intro d'exception aussi, j'imagine. Il
oui.
est bien ce texte d'intro,
bah oui.
Vous l'aimez bien.
Voilà.
Oui.
Ça,
ça
va.
Ça va.
Ça va.
Ça va.
Ça passe.
Ça pleut. D'accord. Non, mais oh là là. Les deux réunis ensemble, là, je me demande si j'ai pas fait une bêtise. Franchement, là,
je sais pas
si on sortira vivant de cette émission. Bref, du coup, voilà, Teddy et Adam sont évidemment de retour du coup avec moi pour parler d'André Arnold durant ces deux heures où nous parlons ciné avec beaucoup de spoilers sur les films. Il y a vraiment des gros trucs à spoiler sur les films ou pas?
Non,
en soi,
non.
C'est pas des films, enfin, à spoiler.
C'est pas des films à spoiler.
Voilà,
ouais.
C'est pas comme sur Shyamalan où là, c'est
ouais,
un peu
Shyamalan,
important
ouais,
quand même
important,
de
ouais.
pas de les voir avant. Mais là, voilà, c'est comme vous voulez, mais on vous conseille quand même de voir les films en question avant de nous écouter. C'est toujours plus intéressant et mieux, je pense, pour vous repérer, évidemment. Voilà. Mais du coup, je voulais commencer
si
par.
Si on peut spoiler des films, ça serait peut-être la fin des Hauts d'Hurlevent, peut-être.
Oui,
ou alors la fin de Co, mais voilà.
Ouais, voilà, mais bon, c'est pas des trucs très spoilables.
Non.
Voilà, oui, voilà. Faites comme vous voulez, chers auditeurs, c'est vous qui voyez.
Voilà.
Mais voilà, en tout cas, vous pouvez nous écouter maintenant ou couper et revenir plus tard, c'est comme vous voulez. En tout cas, Teddy, tout d'abord, je voulais commencer par toi pour te faire l'honneur de commencer cette émission avec une question toute simple. Peux-tu nous dire qui est Andrea Arnold?
Ah, bah déjà, c'est une femme.
Merci.
Non, je déconne.
Sans déconner, c'est gentil. Merci beaucoup.
Donc, comme tu l'avais dit, mais c'est une cinéaste britannique.
Ouais.
Elle est née en 61, okay. Donc 63 ans actuellement.
D'accord.
Elle est née à Dartford, dans le comté du Kent, qui est à peu près au sud-est de Londres, et c'est vraiment à 30 km de Londres, mais c'est une région quand même très pauvre. Et si je dis qu'elle est née dans le Kent, c'est aussi, du coup, petite référence au film Bird, puisque c'est là où elle revient dans son Kent natal.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose dans le film, en effet, dont on a parlé il y a maintenant...
Deux semaines, trois semaines,
voilà. Oui. Donc on parlera peut-être un peu moins du film d'ailleurs, de Bird, oui. Du coup on parlera des autres films, mais voilà. Mais oui, en effet, ça se déroule dans le Kent, en effet, tout à fait.
Je vais faire une petite biographie d'André Arnold.
Vas-y, mais c'est
comme ça, vous allez voir quelques références aussi, okay. Pour ceux qui ont vu ses films, peut-être quelques influences de sa propre vie.
Tout à fait.
Donc elle a vécu une enfance pas facile du tout, dans une région défavorisée, le Kent, en cité HLM.
D'accord.
Coucou Fichtink.
Oui, bah évidemment. Oui.
Évidemment.
On pourra revenir après pendant les films sur cette biographie, si vous inquiétez pas.
Elle a grandi avec sa mère célibataire, trois frères et une sœur.
Coucou Wasp.
Voilà.
on va faire ça pendant tout le truc.
Ouais. Attends, et en plus, je l'ai écrit.
Ouais, c'est pour ça.
Et elle était l'aînée de la famille, et elle est née quand ses parents n'avaient que 16 et 17 ans. Donc Wasp, Bird.
D'accord. C'est bien, on fait une belle intro, c'est cool. Merci. Oui, c'est chouette. C'est très chouette.
Ouais. C'est le but aussi, de montrer que tous ces films s'inspirent de sa propre vie.
C'est super. Vas-y.
Et elle a passé beaucoup de temps, ça c'est elle qui le dit, notamment dans l'interview qu'elle a fait pour ce film. Mm-hmm. Elle a passé beaucoup de temps à explorer les plaines, les champs, les bois, les routes de la région du Kent. Et elle était toujours entourée d'animaux. Et elle a demandé notamment à ses parents, beaucoup, s'ils pouvaient adopter des animaux dans leur maison.
Ok. Parce qu'elle a des animaux.
Ouais, et tout genre d'animaux. C'est un animaux qu'elle ne savait pas que ce n'était pas très domestique.
Oui, des serpents, des trucs comme ça, non, j'imagine.
Et artistiquement, ouais. Étant adolescente, elle écrivait déjà des nouvelles très sombres sur ce que c'est la société. Et elle a eu comme premier emploi danseuse dans des émissions de télé. Mm-hmm. Elle a même écrit des pièces de théâtre, dont une qui dénonçait l'esclavage et le racisme, mm-hmm. et une autre où elle récite des morceaux du journal d'Anne Frank seule sur scène.
D'accord.
Tout ça en étant adolescente.
Elle est balèze, quoi, du coup.
Voilà.
Déjà d'emblée. Ok.
Elle a quitté l'école à 16 ans pour devenir actrice, mm-hmm. et elle a rejoint une troupe de roller disco. Pour danser en roller dans des boîtes.
Ça me dit un truc, le roller disco. Ouais, voilà. Mmh. Ok, je l'ai du coup. Mais...
À 18 ans, elle est devenue animatrice et actrice dans une émission de télé qui s'appelait Numéro 73. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un équivalent britannique du Club Dorothée.
Okay. D'accord, ok. C'est dans le thème en plus, vu que hier soir il y avait une émission sur Dorothée.
Ouais.
À la télé. Voilà. Du coup, vous avez un indice de quand on enregistre. Voilà.
Et à côté, elle continue à écrire et elle découvre des films grâce à la télévision. Mmh. Okay. Et elle a étudié le cinéma à l'Institut du cinéma de Los Angeles. Et 10 ans après ses études, et 10 ans après avoir été animatrice à la télévision, elle revient en Grande-Bretagne pour faire des films. Et donc elle a commencé, comme beaucoup de cinéastes britanniques, par faire des courts-métrages pour la télévision. Dont les trois dont on va parler après.
D'accord, ok. Donc c'est un premier aperçu de sa filmo, quelque part. Bah, merci beaucoup pour ça, ça me fait très plaisir.
De rien.
Du coup, toi, Adam, t'as un truc à rajouter sur la biographie ou pas?
Non, pas du tout. Il faut aller. Évidemment, le spécialiste a tout raconté.
Le spécialiste, il est là, de toute façon.
Je connais plus les films que.
Oui.
Mais
voilà.
Évidemment, j'étais au. Moi. En fait, en creusant, tu apprends évidemment que ces films sont inspirés de sa propre vie. C'est pour ça que je disais ah, coucou.
Oui.
Wasp, coucou, Fichtank.
Évidemment. Et en plus, je l'ai littéralement écrit, hein, vraiment.
Oui.
Il
s'est fait des petites fiches et tout.
Ouais, il est très pro. Bonjour. J'ai mon PC.
Alors, pour vous donner une petite idée, on fait une petite description. Il a littéralement un. Alors, c'est
le cinéma ou
c'est le SoFilm. C'est le SoFilm avec l'interview d'André Arnold pour Bird qui est ouvert sur ta table.
Et qui est vraiment cool d'ailleurs.
Qui est vraiment chouette apparemment. Il a évidemment son exemplaire de son bouquin, évidemment. Moi, je serais pareil si j'avais écrit un bouquin. J'aimerais tellement écrire un bouquin, donc je t'avoue que.
Venir.
Quand je vois ça, je suis jaloux, hein, vraiment. Je,
ça va venir.
Oui, ça viendra un jour.
Après, sois pas trop jaloux parce qu'on n'en vit pas. Hein.
Oui, je sais qu'on n'en vit pas, mais juste pour l'honneur et le prestige, on va dire. Exactement, merci. Le prestige de
Du coup, grouille-toi parce que moi, mon deuxième est en pleine écriture. Hein.
Ah oui. Donc, mais monsieur ne chôme pas. Monsieur dirige un festival de cinéma, il écrit des bouquins. Enfin, tu dors? Ça t'arrive de dormir ou pas?
Des fois, ouais.
Des fois, un peu, ouais, quand même.
Des fois,
propose,
ouais.
Voilà.
Ouais. Il apprend un peu le sommeil, des fois.
Ah ouais, parce que moi, j'avoue que j'aurais pas la force, hein, franchement, honnêtement. Mais voilà. Mais en tout cas, du coup, voilà, c'était une petite bio sur André Arnold. C'est toujours plaisir d'avoir un bon début comme ça. Du coup, on va faire un petit saut dans le temps. On est
flashback.
En mai. Flash forward, plutôt, que c'est en avant.
Ah, hein? Ah, d'accord, ok.
Ouais.
Non, en vrai, non, flashback, parce que dans le temps, c'est dans le passé.
Oui, non, mais oui.
On fait une ellipse.
Oh là là, oui, voilà, tout simplement, une ellipse. Merci, t'as dit
de rien.
Bon, c'est n'importe quoi. Donc,
essayez de vous sauver un peu.
Ouais, je vois ça. Ouais. Chou. Alors, on est en mai 1998.
Oui, mais du coup, c'était pas un flash forward, c'était un retour en arrière. Flash
oui,
forward,
du
c'est
coup,
en avant.
Oui. Arrêtez de me couper. Ah, mon Dieu. Du coup, ouais, voilà, flashback, du coup, en effet, t'avais raison. En mai 1998. André Arnold présente son court-métrage Milk, du coup, à la 37e semaine de la critique au Festival de Cannes. Peux-tu nous en parler un peu, Teddy, aussi de ça, de Milk,
ouais,
du coup.
C'est un film qui dure 10 minutes.
Ouais.
Et en 10 minutes, elle retrace 9 mois de la vie d'une femme.
Ce qui est balèze.
Oui.
Enfin, je veux dire, si c'est bien fait, c'est balèze.
Mais, oui. Voilà. Une femme qui vient d'avoir un enfant.
Voilà.
Voilà.
Ok. Donc déjà, on a ce truc un peu de, comment dire, de l'héroïne féminine qui va parsemer sa fimo. C'est toujours une héroïne.
Oui.
C'est toujours une femme qui est en premier rôle, toujours, constamment. Oui, oui. Il n'y a jamais eu d'homme en premier rôle dans sa fimo, véritablement. Non, tu vois.
Il y a une bonne raison.
Et il y a une bonne raison à ça. Voilà. Et du coup, donc ça, c'est Milk, donc son tout premier, qui la révèle au grand public, on va dire. C'est un premier aperçu où on se dit sûrement à l'époque, bon bah voilà, une cinéaste. C'est le but de la semaine de la critique, de toute façon, oui. C'est une cinéaste.
C'est son tout premier film.
Tout premier film, c'est un court-métrage, voilà. Et en 2004, du coup, donc quelques années plus tard, elle revient avec Wasp, qui lui vaut cette fois carrément l'Oscar du meilleur court-métrage.
Il y a eu Dog entre-temps.
Et il y a eu Dog, pardon, en effet, il y a eu aussi Dog, voilà. Du coup, le court-métrage, enfin, tous ces court-métrages, je crois, sont disponibles dans les bonus du DVD, du Blu-ray de son long-métrage Fish Tank, donc on parlera un peu plus tard, voilà. Donc, juste pour dire le petit synopsis un peu de Wasp, on y suit Zoé, qui est incarnée par Nathalie Press, si je ne me trompe pas, une jeune mère célibataire qui a le plus grand mal à élever ses quatre enfants en bas âge, du coup, voilà, il est célibataire évidemment. Lorsqu'elle rencontre Dave, incarné par Danny Dyer, un ami d'un de ses ex de l'époque qui s'était engagé depuis dans l'armée, qui lui propose du coup un rendez-vous galant. Elle prend peur que les enfants l'effraient, parce qu'évidemment, quand on a, c'est courant, hein, quand on a un rendez-vous avec un mec, une nana, et qu'on est célibataire et parent, souvent le truc qui fait un peu flipper. Et du coup, elle annonce du coup qu'elle ne fait que les garder. Du coup, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Du coup, dans ce synopsis, on peut déjà voir les thématiques un peu de la filmographie de la cinéaste en question, du coup, donc, qui se dessine. Voilà, est-ce que tu as des trucs à rajouter là-dessus ? Enfin, même Adam, je sens que tu as vu aussi Wasp. Ouais, du coup, voilà, donc, vu Wasp. Moi, je ne l'ai pas vu, j'avoue. Hein, voilà, donc.
Ah, ok, merci.
Vas-y, oui, tu as un peu l'honneur. Partagez-vous les tâches, les voilà. Vous vous montrez un peu.
En fait, la particularité de Wasp, en fait, c'est que, oui, évidemment, c'est vraiment le court-métrage embryon. C'est vraiment celui qui va donner naissance, évidemment, la figure masculine qui n'est pas issue de la famille, parce qu'en fait, c'est soit quelqu'un avec qui le personnage féminin va avoir une relation. Si vous avez vu Bird, c'est ça, la mère du personnage principal, c'est un copain qu'elle vient de trouver par là et qui s'incruste dans la famille, c'est toujours ça, c'est le masculin qui s'incruste dans la famille.
Dans Fish Tank.
Dans Fish Tank aussi. Évidemment, le personnage féminin qui est solitaire parce que elle a grandi avec une mère célibataire, donc en fait la figure du père, évidemment dans Fish Tank est très important parce qu'en fait c'est une sorte de figure de père substituée et en même temps la figure du père est très floue parce que c'est un père qui est à la fois distant et en même temps voilà quoi. Et évidemment tout en fait sa manière de filmer en fait l'Angleterre pauvre, démunie depuis évidemment l'époque Thatcher hein, qui a vraiment hanté l'Angleterre d'une puissance phénoménale, ça on le sait.
T'as tout le cinéma social britannique quasiment des années 90.
Ah, 90, ouais, qui est hanté par ça.
Billy Elliot en tête, évidemment. Hein,
évidemment.
Voilà, ça, c'est le film que tu passes
C'est le film référentiel pour parler de Thatcher.
Voilà, c'est pour les ouvriers tout. Moi, je l'ai fait, hein, j'ai déjà...
Oui.
Et puis, on risque un peu de sans trop en dire, ça risque un peu de
Je dis rien.
Voilà, tu dis rien, mais voilà, mais disons que c'est encore d'actualité, voilà. C'est un film qui passe très souvent dans beaucoup de séances scolaires en rapport avec le cinéma.
Et un film très important, si vous ne l'avez toujours pas vu, voyez-le, c'est un film très important.
C'est un film, évidemment, voilà, c'est un classique, absolu.
Voilà, on discerne, en fait, chez André Arnold, je ne dis pas que, évidemment, tous les cinéastes britanniques, c'est juste, en fait, des films moraux, ce sont des films machin, ce qui a toujours, quand même, cet attachement, mais contrairement à d'autres, en fait, André Arnold a un attachement... qui est moins concret, qui est plus vers l'ordre du rêve que la plupart des cinéastes britanniques. Et ça se voit déjà avec Wasp, où en fait, c'est croire à quelque chose, croire à un amour, en fait. Un amour, c'est pas quelque chose qui est physique, qui est matériel, c'est quelque chose qui va au-delà. Et chaque fois, ces personnages vont toujours rêver de quelque chose. Et en fait, il y a toujours cette lueur d'espoir chez elle qui est très importante et qui fait que elle marquait déjà au fer rouge de... Elle va changer quelque chose dans le cinéma britannique, les cinémas sociaux qui est ancré et qu'on a surtout souvent sorti des clichés un peu racoleurs, un peu bâtards, quoi, disons-le clairement.
Enfin, quelque chose d'un peu plus lumineux.
Ouais, parce que c'est un cinéma qui est très morose quand même. Hein. Faut pas se cacher, ça c'est vrai. Les clichés viennent pas de nulle part, mais c'est pas pour rien que à la base c'est un cinéma qui est très morose.
Bah oui. Parce que c'est. Bah, par exemple, sur ces courts métrages, parce qu'avant Wasp, il y a eu Milk et Dog, comme on a dit juste avant, et ces deux films-là sont quand même très tristes, très sombres. Et ouais. Avec Wasp, là il y a quelque chose d'un peu plus lumineux qui arrive. C'est toujours aussi triste.
Oui, évidemment.
Et côté déterminisme social,
bah, l'angoisse, très ouais.
Mais elle est déjà caméra à l'épaule, elle montre déjà des enfants qui s'amusent dehors, elle montre déjà des inserts sur des animaux, sur des plantes, etc. Donc,
le titre avec soit référence animale, soit un animal directement, évidemment. Wasp qui veut dire guêpe.
Merci pour cet éclairage super sur l'anglais, Adam.
T'as vu?
Moi, j'aurais dit que pour se souvenir que c'est Wasp, du coup, veut dire oui. Guêpe en anglais. Moi, je pense à Ant-Man et The Wasp.
Ah Marvel, oui, vois, c'est vrai.
Voilà,
c'est
un petit repère que vous pouvez utiliser chez vous, voilà. Ant-Man et The Wasp, c'est pas un bon film, mais au moins le titre.
Ant-Man et la guêpe, quoi. Vu
voilà.
Qu'en français,
Ant-Man
c'est
et la guêpe, et bah voilà, comme ça vous pouvez vous rappeler que c'est Wasp.
Je voulais juste ajouter sur les commentaires d'André Arnold un petit trigger warning.
Vas-y.
Par rapport à Dog, si vous êtes très sensible à la maltraitance animale, ne voyez pas Dog, son court métrage.
Et c'est un truc qui va revenir plus tard avec Co, du coup, qui est tout aussi frontal là-dessus, quoi.
Oui.
C'est un
truc qui est très engagé. Mais Dog, c'est un
level au-dessus. D'accord. Ok. Je l'ai pas vu, donc je verrai pas. Non, enfin, je sais pas, mais ça j'arrive à supporter, mais quand même, c'est vrai que tout ce qui touche à l'animal, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, bah, merci en tout cas pour ces explications sur ces courts-métrages, c'est super. Vous faites très bien le taf, hein, vraiment. Moi, je suis là tranquille avec mon café. Voilà.
Et j'ai même pas utilisé mes penses bêtes pour l'instant.
Donc, et bah bravo, félicitations. Et du coup, on fait encore un nouveau saut dans le temps, dans le passé, mais dans le temps, par rapport à là où on est, tu vois. Flash forward, du coup.
Là, pour le coup, c'est un flash forward depuis le passé.
Merci de valider. Arrive donc ensuite son premier long métrage, du coup, André Arnold, qui commence déjà à être réputé, du coup, grâce à l'Oscar pour du meilleur court métrage avec Wasp. Et du coup, elle arrive avec son premier film, son premier long. Et il s'agit, du coup, de Red Road, donc Route Rouge. Littéralement,
bravo,
merci.
C'est très bon en anglais.
Je sais. Du coup, Red Road, donc je vous propose d'écouter tout de suite la bande-annonce. Au Festival de Cannes en 2006, Red Road raconte l'histoire de Jackie, Kate Dickey du coup, opératrice pour une société de vidéosurveillance qui œuvre sur la protection d'une petite partie de la ville de Glasgow, une autre ville charmante dans le Terre. Un jour, un homme apparaît sous ses yeux, elle connaît cet homme et voudrait ne plus le revoir, aujourd'hui elle doit y faire face. Red Road est aussi le premier film de la trilogie Advance Party, initié par Lars von Trier, réalisateur notamment de beaucoup de choses, d'Infomaniaque, pardon, excuse-moi, je vous ouvre.
Ah oui,
Antichrist.
Antichrist,
ouais. The House of the Built, voilà, donc, ouais, voilà. C'est un peu le sale gosse danois, on va dire, un peu, c'est comme ça qu'il est un peu surnommé.
Oui.
Voilà, et donc ce premier film de la trilogie Advance Party, qui est du coup un mouvement initié par Lars von Trier et qui doit du coup suivre les règles du mouvement danois du réalisateur nymphomaniaque, du coup, donc le Dogme 95, à savoir un budget limité à 1,5 million d'euros.
Ouais.
Un temps de tournage court, en l'occurrence là sur Red Road, il s'agit de 6 semaines. Même lieu, même personnage. Voilà, une économie moyenne.
Pas de musique extra-digétique, oui, aussi, que d'intra.
Voilà. Voilà, une économie de moyens qui plaît beaucoup
image,
à
Dan. Non, mais en fait, c'est simple et en même temps, c'est compliqué à expliquer ce que c'est le Dogme 95.
Voilà.
C'est, ouais, c'est une économie de cinéma très particulière, voilà, une manière de faire qui est très particulière. Parce que Lars von Trier, en étant le sale gosse qu'il est, en plus, c'est un des premiers à ne pas avoir respecté ses règles. Pour vous dire à quel point c'est un sale petit gosse.
Ouais. oui, non, mais oui, c'est clair.
Voilà, c'est ouais, des caméras DV tout pourries. C'est. Si vous voulez voir ce que c'est un film du Dogme, c'est Festen de
Winterberg. C'est
un des meilleurs exemples de ça. Ouais. C'est-à-dire image jaunâtre, dégueulasse, qui pue la pisse. Ouais. J'aime bien ces films. Hein,
oui, moi aussi, mais c'est particulier. Hein, oui.
C'est particulier.
Et ça me rappelle que j'avais vu une adaptation au théâtre de.
Et pas d'effets spéciaux aussi.
Oui, j'avais vu une adaptation au théâtre de Festen, à la Maison de Culture d'Amiens.
Je trouve ça un peu raté.
C'était un peu raté parce qu'en fait, il reproduisait en fait l'aspect filmique sur scène avec un écran qui projetait un live.
Ouais, mais t'avais pas le Dogme en fait.
Voilà, et
en fait, le film, c'est particulier.
C'est ça, en fait, la pièce était filmée en direct sur scène et en fait, ça, c'était une caméra HD. Donc l'image était hyper propre et du coup, ça donnait un truc qui était complètement.
Ils n'ont pas compris Festen, je pense.
C'était pas le Dogme 95, quoi. Ouais. C'était juste une performance filmique sur scène. C'était bien fait, hein, mais tu te rends, bon, bah voilà. Quoi. Bref. La parenthèse est fermée
oui, non,
sur
mais voilà, mais bon, voilà.
Au moins
mais
ça explique un petit peu ce que c'est.
Voilà, c'est des films et que un peu espèce de nouvelle vague. Voilà quoi. Bref.
En tout cas, voilà une économie moyenne qui va définir un peu le style réaliste de la cinéaste, de certaine manière, un peu selon toi, Teddy ou bien...
Pour moi, il le définit pas vraiment.
Ouais, non.
Parce que pour moi, c'est vraiment le film à part d'André Arnold qui se différencie des autres.
De par le fait qu'il appartient à cette trilogie.
Entre autres, oui.
Du coup, okay.
Mais aussi parce que dans ces thématiques. C'est pas forcément éloigné, on est chez André Arnold.
Oui, bien sûr.
Mais ce sont des thématiques, même dans l'approche qu'elle a, on ne trouve pas ça par la suite dans ce qu'elle a fait. Même avant, dans Wasp, c'était complètement différent. Et là, déjà, même si elle s'inscrit déjà dans son quotidien, par rapport au Dogme, on disait l'économie de moyens et par rapport aussi aux images, là, c'est quand même quelqu'un qui surveille via des caméras.
Ouais.
Donc là, l'esthétique se fait avec les vidéos de surveillance.
Il y a toujours le reflet un peu de miroir quand même chez elle. Elle en profite que même qu'elle soit chez le Dogme, bah dans l'esthétique du Dogme. Parce que, comme vous l'avez dit, en fait, tout doit être intradigétique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir une autre image qui provient d'un autre truc. C'est-à-dire qu'il y a cette source-là, elle profite du Dogme. Et même, en fait, même quand elle va ailleurs, elle s'approprie toujours les codes d'un cinéma, d'un pays... On verra avec American Honey de comment est-ce qu'elle s'empare du cinéma indépendant américain, qui est un truc très, très, très codifié avec ses thématiques.
Et en sachant que même dans Red Road, selon moi, elle s'interroge déjà sur les images en plus, que ce soit de cinéma ou même autre, là, les caméras de surveillance, mais elle s'interroge sur les images et ce que ça révèle du réel.
Oui.
Parce que Kate Dickie, qui est l'actrice principale, c'est déjà une femme en tant que protagoniste, enfin, je dirais même. Encore.
Et les images que nous reflète le trauma de cet homme qu'elle veut plus revoir.
Quelle interprétation on a du réel par rapport à ça.
Désolé, j'ai coupé mon micro. Du coup, oui, en effet. Et du coup, Red Road, donc c'est son premier nom qui va un petit peu quand même synthétiser certaines thématiques, mine de rien, quand même. Un petit peu.
Bah oui, bah, la femme, le deuil, le désir.
Le masculin qui est toujours à part, en même temps, un peu, il y a cette notion en fait, de désir, mais là, c'est le désir de vengeance.
Oui.
Et le deuxième, Fichtenck, ce sera le désir de la sexualité, dont on parlera juste après.
Oui.
Mais,
et la violence des hommes.
Évidemment. Et la violence des hommes, évidemment. Qui est très présente.
C'est un truc qui va revenir vraiment particulièrement sur le suivant. Du coup, du coup, on a fait le tour déjà de Red Road.
J'ajouterais juste Red Road. Voilà. Pour moi, il est à part parce que je le considère un peu comme un thriller psychologique.
C'est vrai que c'est un thriller psychologique. Okay. Un truc dont elle reviendra pas tant que ça, je trouve.
Non. Parce que là, à travers les caméras, elle surveille, dans un premier temps, elle surveille. Et après, Kate Dickie, elle va dans la masse, elle va chez les gens, les rencontres.
Mais il y a du coup aussi ma présence en fait de lieux isolés qu'on retrouve beaucoup dans son cinéma. Fichtenck évidemment, mais Fichtenck c'est le long métrage matriciel de André Arnold. Si Wasp était l'embryon, voilà quoi. Et il y a ce truc isolé parce qu'elle surveille les gens à travers la caméra et comme tu le dis, après elle va aller en dehors et en fait l'en dehors est toujours bon là il est moins fantastique et moins
Là c'est très béton, c'est très bitume.
C'est très, bah, c'est matériel, quoi.
Ouais.
Et ce qui en fait un film un peu à part, un peu étrange, qui est très intéressant, hein, mais qui est très étrange. Et du coup, en fait, c'est un espèce de film, en fait, où on revient pas très souvent, parce qu'en fait, c'est des embryons dont elle sait qu'en fait, ce sera son film suivant qui va vraiment être le film qui va vraiment faire éclore son cinéma et ce qu'il est, quoi.
Mais Red Road, c'est un peu une mosaïque en plus, hein. Oui. Il y a plusieurs personnages secondaires, donc ça voit un peu regarde un peu comment la société est en train de se déliter déjà. On est en quelle année, Red Road?
C'était 2006.
Voilà, en 2006. Elle commence déjà à regarder comment la société britannique s'éclate à travers Kate Dickie qui surveille, du coup.
Oui.
Et là, le mouvement, ça vient pas de parce que Kate Dickie la surveille depuis un poste de contrôle, donc c'est pas son appartement à elle. Donc là, contrairement au film d'après où le mouvement c'est de l'appartement vers l'extérieur. Là, c'est vraiment du centre de contrôle vers d'autres appartements.
Ouais. C'est comme si on observait, en fait, le monde tel qu'elle, en fait, l'avait vécu, en fait, ces mondes-là, et on le voit de l'extérieur. C'est ça aussi qui est un peu étrange, parce que normalement, en fait, on est à l'intérieur, et après, on va aller vers l'extérieur. Il y a ce geste très anormal, et en même temps, qui rend le truc fascinant. Tu fais... pour le premier long-métrage, tu vois, tu penserais pas qu'elle le ferait... le geste inverse de ce qu'elle fera plus tard.
Ouais.
C'est sûrement dû au dogme, évidemment, mais ça en donne un objet fascinant et se dire que déjà là, elle s'approprie toujours les codes de quelque chose où, en fait, alors, comme on a dit, en fait, elle reviendra dans le Kent que pour Bird, en fait, et jamais avant. Parce qu'elle va toujours s'approprier le truc et en même temps, il y a toujours les ressemblances, c'est ça aussi qu'elle s'amuse à faire.
Il y a toujours la solitude, hein,
oui.
Parce que la protagoniste, elle est très seule. Hein.
Ah oui, totalement. Et il y a aussi ce truc de... si on est ailleurs et pourtant on voit, comme on l'a dit, évidemment Margaret Thatcher va beaucoup revenir dans cette émission, tout est bien, l'impact économique monstrueuse, pas je dis pas ça positivement,
non, mais c'est pas au sens du terme,
c'est pas dans le bon sens du terme,
on l'a vécu cette période, donc.
Pour le coup c'est vraiment le fantôme qui hante, et ce qui est drôle c'est que du coup Margaret Thatcher était une femme, c'est ça que je trouve ça un peu ironique, dans la chose, c'est voilà quoi. Donc, peut-être aussi parce que, en dehors du fait qu'elle a eu sa mère célibataire, évidemment, c'est drôle aussi qu'en fait, ce soit toujours souvent on filme le féminin qui subit la condition sociale, alors qu'elle a été infligée par. C'est en métaphore, peut-être que j'extrapole un peu, mais il y a ce truc de c'est un peu ironique, ironiquement triste de se dire que. Les femmes subissent ce qu'une femme a engendré par rapport à une société des années 80 très libérale et ce que ça a détruit avec ces bâtiments toujours un peu délabrés et toujours un peu tout ça, quoi. Bref.
Voilà. D'accord, ok. Mais voilà, mais en tout cas, c'est une sorte de petit... On peut dire un petit peu que c'est un petit codex. Oui. On va dire un petit peu de la suce à
filmer. C'est un mini codex. Un peu éloigné, à la fois un codex et en même temps, c'est très éloigné, mais c'est très intéressant à voir.
D'accord. Et du coup, moi, je vous propose qu'on passe au film suivant. Voilà, puisque du coup on a terminé avec Red Road et du coup on va arriver à, elle va revenir en André Arnold va revenir en 2009, du coup, donc 3 ans après, de nouveau à Cannes, voilà, toujours
Une enfant de Cannes,
elle a un passif avec Cannes, là, du coup, là, mais c'est en effet une enfant de Cannes
et pas autant jamais récompensée d'une des récompenses suprêmes, oui, et ça c'est triste,
oui bah même pour Bird, moi je m'attendais qu'il y ait un prix du jury, tu vois, et pas 4, hein, comme on dit. Voilà, mais en tout cas, du coup, avant Bird, mais du coup, il y a déjà un deuxième prix du jury et avec un film qui est souvent considéré comme assez régulièrement son meilleur. Voilà, souvent celui qui est cité un peu comme le préféré de tout le monde. Voilà.
Ça, c'est le film matriciel, hein, pour le coup.
Voilà, et c'est le film qui va vraiment
le film fondateur de sa filmographie.
Voilà, qui va la définir et qui va même définir quasiment tout un mouvement du cinéma social britannique contemporain, j'ai presque envie de dire.
Sur lequel j'ai écrit.
Sur lequel monsieur a écrit, monsieur Teddy. N'oubliez pas, son livre est dans les meilleures crèmeries possibles. Voilà. Et du coup, tout de suite, on passe à Fish Tank et Bannonce.
Your terrible dancing's my problem.
Skanky little pirate.
Ah, exactly. Get her away. Mum, let go of me!
No, fucking let go of you, you little...
I don't know what's wrong with you.
You're what's wrong with me!
It's clothes on me.
I've got some clothes on.
You're half naked.
You don't normally care.
Yeah, well, I do now, so get dressed.
I got myself an audition.
Are you going to show me?
Sorti du coup en 2009 et une nouvelle fois primé du prix du jury à Cannes, Fish Tank se déroule toujours dans la banlieue d'Angleterre. On y suit Mia Williams, Cathy Jarvis du coup, incarnée par Cathy Jarvis, une ado de 15 ans, volatile et solitaire. Elle n'a qu'une seule et unique passion dans la vie, le hip-hop, seul échappatoire à son quotidien dans un HLM à l'est de Londres où elle vit avec sa mère célibataire Joanne et sa petite sœur Tyler avec qui elle entretient des relations conflictuelles avec les deux. Sa vie est bouleversée lorsqu'elle fait la connaissance du nouveau petit ami de sa mère, Connor, incarné par un Michael Fassbender qui n'était pas encore devenu Magneto dans le revival d'avenir des X-Men, mais déjà la nouvelle muse de Steve McQueen, puisqu'il avait été révélé un an plus tôt dans Hunger, notamment, où il y a déjà un lien, un petit lien avec Thatcher aussi.
C'est carrément le sujet du film.
Voilà. Mais non, ouais, c'est
pas un film sur l'Ira, donc.
Oui, voilà.
Voilà, non, c'était pour la vanne, mais voilà. Mais
oui, non,
pour
non,
dire
évidemment.
Que tout est lié dans cette émission, voilà.
Pour faire très rapide, c'est les manifestations qu'il y avait eu en prison, contrairement. Pour protester contre les conditions déjà d'emprisonnement et en fait la nutrition et la gestion en fait des ressources par Thatcher dans les organismes de défense politiques etc. C'était une manifestation qu'il y avait eu, ça a été une répression très violente et voilà, c'est ça que raconte Hunger de Steve McQueen. Voilà.
Merci pour la recontextualisation et allez voir les films de Steve McQueen, c'est super. Reconnu comme un véritable renouveau du réalisme britannique, cité souvent comme son meilleur film, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Fish Tank est un nouveau cap franchi par André Arnold, avec notamment l'une des premières figures masculines toxiques, on va dire, elle était déjà là avant, mais omniprésente dans sa filmographie, voilà, mais qui là, c'est son premier porte-étendard, en la personne de Fassbender, qui l'incarne plutôt très bien, étrangement, enfin, il est assez terrifiant dans le film, moi je trouve, voilà, mais voilà. En quoi, du coup, Fish Tank est donc un renouveau dans le cinéma britannique pour vous, messieurs?
Pour moi, c'est un renouveau, et c'est quelque chose dont je parle dans mon bouquin, c'est tout ce qui s'était passé avant dans le cinéma britannique, c'était des films assez sinistres, qui attaquaient directement la pauvreté qu'il y a dans la société, et là, la pauvreté est toujours présente, mais c'est pas le focus d'André Arnold, elle préfère créer le mouvement de pour sortir de la pauvreté, pour aller vers l'extérieur, pour aller chercher des rêves, des désirs, et puis de l'amusement, des loisirs, quoi.
Parce qu'elle est passionnée de danse, le hip-hop qui est la culture américaine, en fait. On va chercher à l'extérieur, la culture de l'extérieur, pour se l'approprier et pour être une source, en fait, de quelque chose qui va générer un peu de bonheur dans une misère enfermée, cloisonnée, et vouloir avoir l'écran vers l'extérieur. Son écran vers l'extérieur, ou les peu de moments où on va aller vers l'extérieur, c'est pour pratiquer les loisirs qui permettent d'échapper à ça. Et oui, c'est totalement ça.
Et Mia, c'est la danse. C'est à travers ça qu'elle crée son échappatoire, qu'elle crée sa manière de s'extirper, de s'émanciper.
Il y a une scène de danse en plein milieu, mais il y en a une en particulière qui est en milieu du film, je crois, à peu près, où elle danse seule et tout dans l'appartement, je crois.
Ouais, et ça, c'est un truc qui me fascine dans le film, c'est qu'elle quitte son foyer familial pour aller danser dans un appartement abandonné, dans une pièce.
En regardant
à travers la fenêtre la ville.
Donc, oui, comme si en fait elle se crée un statut orpheline, mais en même temps pas vraiment en fait. Mais en même temps elle est une sorte de fausse orpheline. C'est-à-dire qu'elle veut s'émanciper de quelque chose, des parents, du coup déjà de sa mère avec qui des fois elle a des relations
très conflictuelles.
Très conflictuelles aussi, hein. Même si la fin tente un peu de réunir, c'est ça aussi la lumière avec le ballon, avec le cœur et tout. Voilà quoi, il y a quelque chose.
Elle vit dans un aquarium, qui est le titre du film. En français, c'est l'aquarium. Donc elle tente de sortir la tête de l'eau. On n'est pas encore dans la phase d'André Arnold où elle va réussir à totalement s'émanciper. Donc là, c'est plutôt. Elle est un peu en train de tourner en rond, d'errer dans la ville, parce qu'elle revient toujours dans le foyer.
Mais comme un poisson, en fait. Là, même quand vous nettoyez l'aquarium, vous le sortez de l'aquarium, même pour en mettre dans un autre, il finira toujours par retourner dans son aquarium d'origine.
Là, le but, c'est que des fois, elle sort la tête de l'eau. Après, elle y retourne, mais des fois, elle sort la tête de l'eau. Et voilà. Et notamment, par rapport à la toute première scène, c'est quand même Mia qui sort d'un immeuble avec une façade complètement sale, etc. On est dans le contexte de la misère en Grande-Bretagne. Et elle rencontre d'autres jeunes filles qui sont en train de danser en extérieur. Donc, dès la première scène, elle annonce déjà ce que va être le film. Et elle rencontre aussi un cheval.
Aussi,
ça faut en parler, parce que c'est quand même l'un des premiers films où le bestiaire d'André Arnold, les animaux, ont de l'importance. C'est le premier film où...
Où les animaux sont les êtres les plus vivants et les plus source de bonheur et de métaphore d'échappement possible.
Ouais.
Que déjà l'aquarium, évidemment, par rapport au titre du film, sortir la tête de l'eau comme si elle était un poisson qui voulait partir vers un autre aquarium, oui. Peut-être même vers l'océan. Qui sait.
Bah, l'océan, c'est la
le
ville.
Monde
hein.
de Nemo.
Bah oui, l'océan, c'est la ville. Bah, c'est Nemo. Hein.
Oui, oui, oui.
C'est Nemo 3 ans après.
Ouais. Mais ce que j'aime bien avec le bestiaire, tous les bestiaires d'Arnold, c'est que les animaux, dont là le cheval dans Fish Tank, c'est l'affection et la joie que les humains ne peuvent pas apporter à ces jeunes femmes.
Parce que Connor, il y a cette espèce en fait, de relation un peu ambiguë de la culture. On en parlait en fait quand on parlait de Bird. Le personnage de Carrie
Jarvis.
Non, je parlais.
Cathy Jarvis, non
non, dans,
non
Bird.
Dans Bird.
Ah, pardon.
De Barry
Keoghan.
Et un peu l'héritier de ça, et en même temps, il est moins toxique que Michael Fassbender,
oui,
où c'est vraiment la culture de l'homme masculin. Et en même temps, il y a cette espèce de truc trop, parce qu'elle est encore adolescente, elle s'apprête à passer à l'âge adulte, d'où le fait qu'elle sort souvent de la tête du vocal,
ouais.
Et en fait il y a ce découverte de la sexualité, découverte de qui on est réellement, et en fait c'est à la fois un coming of age, c'est un coming of age pur et dur,
c'est l'apprentissage
l'apprentissage déjà du monde de qui on est, de toute façon
toutes les jeunes femmes, toutes les adolescentes dans Arnold doivent se démerder toutes seules.
Ah bah oui. Et c'est ça aussi qui est, et c'est pour ça qu'en fait elle a apporté un renouveau, c'est déjà dans le contexte social britannique qui a été déjà bien délabré, détruit depuis 20 ans. Et moi, quand on est en 2009, Thatcher, ça fait déjà plus de 15 ans qu'elle est plus en politique, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que il y a les restes, en fait. C'est les restes,
c'est les conséquences.
C'est les conséquences, en fait, ce sont les abandonnés, ceux qu'on va mettre au fin fond. Souvent, en plus, ils sont souvent à l'écart des villes. C'est souvent ça, où elle choisit des lieux où ils sont souvent à l'écart. Et c'est ça, hein, quand vous allez dans les banlieues, même en France, en fait, c'est la résultance de l'américanisation des années 80 qui a été très, très, très violente. Par exemple, si on en parle en France, pour vous restituer par exemple en France, ça a été aussi quelque chose qui a été terrible. C'est ce dont essaie de parler l'amour ouf ou leurs enfants après eux. Par exemple, pour vous donner un exemple. Mais évidemment, le social britannique est encore un tout petit peu différent, parce que les répressions étaient réellement réelles et beaucoup plus puissantes. C'est quelque chose en fait qui s'est impacté dans la culture, et en fait les parents, jeunes parents, ont été la résultance, comme si en fait ils ne savaient, en fait ils n'ont pas su pas totalement en fait se débrouiller eux-mêmes, parce qu'ils sont toujours paumés, ils savent pas. C'est la mère dans Wasp, en fait. Elle ne sait pas comment gérer tout ça.
Déjà, des Fish Tank, même des Wasp, comme tu dis, les parents sont dépassés.
Oui.
Ils sont dans la misère, mais ils sont dépassés.
Parce que c'est des choses à laquelle ils n'étaient pas préparés, parce que leurs parents avaient une vie qui était sûrement bâtie. Ça, c'est des choses qu'on raconte pas techniquement, mais c'est des choses qu'on peut imaginer. Peut-être une vie bâtie qui s'est d'un coup peut-être effondrée avec l'arrivée de Thatcher. Comme elle est arrivée comme un gros drap qui a tout englouti. Et là, eux ont été la résultance de ça. Et Connor, c'est cette espèce de, comme on a dit, de figure masculine. En plus, Michael Fassbender, qui est... c'est ça aussi le talent d'André Arnold, c'est de prendre déjà des étoiles montantes et des actrices qui débutent. Hein, parce que l'actrice qui joue Mia, c'était Mia
Mia Williams,
Cathy Jarvis.
Ouais.
C'est une actrice complètement inconnue. Et
qui, en plus, n'a rien fait après.
Ou qui n'a rien
c'est
fait
vrai
après.
Que, ouais, non.
Et c'est vraiment... évidemment, elle joue merveilleusement bien, c'est ça. Le talent de Arnold, c'est de savoir tirer le réel de quelque chose qui est palpable et qui est là, qui est ancré. Quoi. Et en même temps, il y a toujours une notion d'échappatoire qui sépare les films des années 80-90 à ceux d'André Arnold fin 2000, début 2010. Quoi. C'est ça qui est fascinant
pour ça que, c'est pour ça que notamment dans mon bouquin, je l'oppose à Ken Loach, en disant que la grande différence, c'est que Ken Loach était à peu près matérialiste.
Ah oui.
Et donc, pour lui, c'est ça le manque par rapport à la société. C'est comme ça que se crée la lutte. André Arnold, elle est très immatérialiste. Il y a des manques, notamment à travers la pauvreté, dans le foyer familial, il manque de beaucoup de choses. Mais c'est à travers le non-matériel.
Les rêves sont plus puissants que
le matériel. À travers la nature, qui sont des choses concrètes quand même. Ce n'est pas des trucs fabriqués et de l'imaginaire. Donc, c'est du concret, c'est la nature. Mais c'est quasiment immatériel dans la manière dont elle le filme.
Ouais, c'est ça. C'est, et même si, par exemple, à la fin, ces personnages manqueront de quelque chose, s'ils ont réussi à acquérir la chose immatérielle, l'amour, peut-être le premier désir amoureux, ou que sais-je encore, la passion, la danse, bah en fait, ouais, il y a toujours quand même quelque chose de matériel. En même temps, la danse, c'est quelque chose qu'on effectue, mais qui, c'est à la fois... Ouais, c'est pas matériel, mais parce qu'en fait, c'est notre propre corps qui produit la chose. Et en fait, à chaque fois, ces trucs, ouais, les choses que ces personnages veulent acquérir, c'est ce qui est capable de produire le propre corps. Alors que Ken Loach, c'est des choses qui doivent provenir de l'extérieur et qui doivent provenir de... Des plus hautes instances politiques qui doivent le donner au communautarisme, chose immensément importante chez Ken Loach, là où chez Arnold,
bah chez Arnold ça provient de soi,
ça provient de soi et des pas le donner aux autres
en relation avec leur environnement et leur paysage.
C'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est un film matriciel très important totalement, et pour ça que les comparaisons avec Ken Loach sont intéressantes, mais elles sont très vite limitées parce que c'est totalement... Ils reprennent la même chose du matériel britannique social besoin, mais il est à l'antithèse complète.
Mais du coup, Fish Tank agence quelque chose, un renouveau du coup, qui s'émancipe de Ken Loach.
Ah oui, totalement.
Qui en est l'héritage, mais qui s'en émancipe complètement.
Bah, rien que la notion de désir,
oui,
déjà.
Ah oui, bien sûr, oui. La notion de désir qui n'est pas du
la
tout présente.
La sexualité, qui d'ailleurs, dans Fish Tank, il y a quand même une scène de... On n'a pas trop parlé, mais il y a une scène de sexe en question, justement, entre Michael Fassbender et Cathy Jarvis, qui est quand même extrêmement... ce qui se passe à l'écran n'est pas bien. Voilà, ouais. C'est pas bien. Mais elle n'a pas peur, André Arnold, de montrer du désir en cette scène, de montrer de la sensualité, de montrer
parce qu'elle découvre,
chose.
C'est parce que Mia se découvre.
Ah oui, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Il y a un truc vraiment.
C'est ça, au bout aussi, en fait, on a l'emprise masculine plus âgée. C'est aussi comme si.
Ça,
elle montre aussi comment ça marche, est-ce que des hommes peuvent, en fait, utiliser leur prestance, leur carrure, surtout la carrure de Michael Fassbender. D'où le choix immensément génial.
Puis quand on a vu l'acteur qui est devenu après, quand tu vois Shame de Steve McQueen par la suite et tout, ou tous les autres films qu'il a fait après.
Et en plus, c'est très drôle parce qu'il fera ce qu'il retournera chez Steve McQueen pour faire Shame.
Oui,
et c'est là où en fait il n'arrive plus à contrôler ses pulsions sexuelles.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu drôle, je trouve. L'image est assez drôle.
Et puis j'ajouterais quand même que dans Shame, il est sexuellement très attrayant dans Shame. Il y a un truc vraiment.
Oui, et en même temps, c'est lui-même, en fait, c'est quelque chose qui le dépasse parce qu'il n'arrive plus à se contrôler.
Totalement.
Il faut toujours qu'il aille.
Même dans Fish Tank.
Oui,
il est assez magnétique aussi. Hein.
Oui, voilà. Et ça, c'est. Voilà, quoi.
Voilà. Mais du coup, voilà, passé le petit moment où on s'est extasié sur Michael Fassbender et c'est tout sexuel. Voilà. Du coup.
Wow. Oh, son personnage dans Fish Tank. Franchement, j'ai pas envie de l'avoir comme beau-père.
Voilà,
j'ai pas envie de l'avoir.
Non, mais voilà, mais c'est un film qui n'a pas peur de montrer l'aspect charmant. Enfin, charmant.
Oui.
Faussement charmant. Pour, de ce prince charmant.
Pour une adolescente s'apprêtant à devenir adulte et qui va devoir affronter le monde.
Voilà.
Et du le coup, fait qu'il faut tuer le père aussi. Il y a une notion un peu de tuer les pères, les pères du cinéma britannique. Chez elle, qui est très... qui est en filigrane. Ça sent qu'elle veut tuer ses pères. Pas parce que... ça y est, il faut passer à autre chose. Parce qu'il y a leur héritage derrière. Parce qu'il faut passer à autre chose. Parce que la reconstruction ne viendra pas des plus hautes sphères. On sait, ça c'est fini, ces trucs. C'est de nous-mêmes qu'elle doit provenir. Donc voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est un film matriciel très important. Voilà.
Et du coup, après ce film matriciel, qui est un véritable renouveau, encore une fois, dans le cinéma social britannique, elle change quand même pas mal elle change un peu de registre quelque part, puisqu'en fait, après deux prix du jury à Cannes, André Arnold s'attelle à une adaptation libre du roman d'Emily Bronte. Bronte, j'arrive jamais à le dire. C'est Bronte.
Bronte, je dirais. C'est un E avec deux petits points.
Bah, c'est pour ça que c'est un E tréma, donc je suis en mode Bronte, peut-être. Je ne sais pas. Excusez-moi les.
Bah non, parce que c'est pas un accent, donc tu montes pas le.
Oui, donc non, voilà. Donc Bronte. Mais Bronte, du coup. Le roman Fleuve, Les Hauts de Hurlevent, et je vous propose d'entendre une petite bonne annonce d'adaptation avant d'en parler.
Thank you. broke my heart. You killed me.
Après, du coup, deux prix du jury à Cannes, du coup, André Arnold s'attelle du coup à une adaptation libre de Des Hauts Dures le Vent, comme j'ai dit un peu plus tôt, sorti en 2011. Du coup, ce drame romantique qu'on va pas de nouveau résumer, hein, c'est Les Hauts Dures le Vent, vous irez sur Wikipédia voir le synopsis du roman, puis voilà. C'est bon, quoi. Oui, vous pouvez spoiler aussi, il n'y a pas de problème. Excusez-moi.
Tu seras tout seul à spoiler. Hein.
Ouais, du coup, voilà, vous pouvez spoiler.
Je ne l'ai pas vu. Voilà.
Et que Teddy qui l'a vu, du coup, je m'adressais à Teddy en particulier. J'avais pris dans le texte, c'est qu'à Teddy de toute façon. C'était littéralement ça, quoi. Ce drame romantique n'est-il pas la rencontre parfaite entre le romanesque de la littérature classique et le réalisme social cru de la cinéaste, Teddy?
Ben, réponse bateau, oui, puisque le romanesque. Mais romanesque, oui, puisqu'il est adapté d'un livre.
Bah, donc, oui, voilà.
Évidemment.
Et oui.
Mais quand on parle de romanesque au cinéma, oui, vous voyez ce film, du coup. Parce que ce n'est pas une. Là, il ne s'agit pas pour André Arnold que de raconter l'histoire de ces personnages. Et c'est notamment la première, parmi toutes les adaptations de Hauts Dures le Vent, à faire en sorte que le personnage d'Heathcliff est incarné par un acteur noir. C'est la première à le faire. Et ce sera peut-être la seule, puisque vu la prochaine adaptation, on ne s'est pas prêt d'en revenir.
Il ne s'annonce pas très bien déjà, il ne faut pas se mentir.
Ça, c'est une balle gratuite, ça.
Vous m'apprenez qu'il y en a une. Hein.
Oui, avec Margot Robbie.
Ouais, hein, ça va être désastreux.
Ouais.
Bref.
Donc, du coup, revoyez celle d'André Arnold. Faut
arrêter de mettre Margot Robbie dans n'importe où. Hein. N'importe
d'accord.
Quoi, ça peut être un
bah, elle est coproductrice.
Ouais.
Mais du coup, revoyez la version d'André Arnold qui est de 2011. Donc, c'est pas vieux non plus. Mais du coup, oui, c'est pour moi du romanesque pur au cinéma. Parce que bah, là, par exemple, dans mes notes, je disais que le film montre la mort de toute chose dans les paysages. Que c'est quand même une population encore plus isolée que dans Fish Tank, puisque là on est toujours dans le sud de l'Angleterre, mais c'est vraiment des grands paysages brumeux, très arides, où il y a pas grand monde qui habite, puisque là littéralement il y a juste la famille qui habite et qui accueille après Heathcliff. Et là c'est vraiment quelque chose de très impuissant. Ce sont des personnages qui n'arrivent pas à accéder à autre chose, à un bonheur. Accéder à un bonheur qui pourrait leur tendre les bras un ailleurs. Là, l'ailleurs, c'est les paysages brumeux et arides. Là, on est encore vraiment dans autre chose que dans Fish Tank. Là, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas d'amusement, etc. Là, c'est ils sont dans une condition très fataliste. C'est leur vie marginalisée de paysans, etc. Mais c'est un film en costume, parce qu'il y a peut-être un roman, donc très romanesque. Et donc là, c'est vraiment pour moi le film le plus radical, avec après Cow, parce que c'est aussi un documentaire.
Ouais.
Mais c'est vraiment le film de fiction dans le plus radical, où le paysage a le plus d'importance.
D'accord. Ouais.
Là, elle filme littéralement, parce qu'il y a toujours son bestiaire, il y a toujours l'importance de la nature. Là, elle filme littéralement, par exemple, des volets qui claquent avec le vent. Elle filme les plis des robes avec le vent. Elle filme vraiment la brume, elle filme des gens allongés dans l'herbe pendant plusieurs minutes sans que rien se passe. Et c'est vraiment ça. Et les lueurs de soleil et de lumière sont très disparates, sont très rares. Donc, c'est un film très radical. Et c'est comment, du coup, les émotions se entrent en écho avec les paysages.
D'accord. Ok.
Voilà.
Bon, nous on n'a pas lu le film.
On n'a pas fait
notre devoir.
C'est pour ça que je donne juste des grandes lignes.
Oui, mais t'as raison, c'est super. Voilà. Et du coup, c'est une parenthèse dans sa filmo un petit peu, d'une certaine manière. Et en même temps, c'est comme tu dis.
Pour moi, c'est pas une parenthèse. Elle va encore plus loin que Fish Tank.
Oui, mais parenthèse dans le sens, c'est un film d'époque. C'est juste ça là où je fais la parenthèse. Voilà.
C'est un film d'époque, une adaptation. C'est pas une histoire originale. Mais ça reste complètement dans les obsessions, dans les thématiques. Dans la halle, puisqu'il y a quand même l'héroïne qui est adolescente et qui essaie de s'affranchir un peu de la vie de son père et de cette vie de paysan, de fermier. Elle ne peut pas cette fois-ci, contrairement à Fish Tank. Là, elle ne peut pas. Elle est condamnée dans ce paysage. Et voilà, c'est comment les émotions peuvent essayer de se retrouver malgré tout dans ce paysage-là très, très aride et très brumeux.
D'accord. Mais du coup, après ce film d'époque, du coup. Elle revient on va dire, avec son troisième et dernier prix du jury en date pour elle, du coup, en 2016.
Malheureusement.
Pour l'instant, on ne sait jamais, ça va peut-être revenir. C'est un nouveau film qui marque le retour de la cinéaste au réalisme, on va dire, moderne, britannique, ou presque, puisqu'elle investit un territoire un peu plus inconnu, celui de l'Amérique, un territoire américain, celui de l'Oklahoma, plus précisément, avec, du coup, American Honey, dont je vous propose d'écouter tout de suite la bande-annonce.
It's a business opportunity. We go door to door, we sell magazines. We explore, like, America. We party. Come with us.
Got anybody who's gonna miss you?
Not really.
Okay, good. You're hired.
Yeah. I like to make money, get turned. I like to make money, get turned.
Is she okay?
Oh, yeah, you just gotta keep her in your prayers, darling.
I've been trying to be Christian, but I can see the devil has a hold of the two of you.
The devil has a hold of your daughter.
Hey!
Where are you going?
To make money!
Hop in.
I make money and get time.
Oh! I like a girl with spunk.
It's a party, it's a party!
And Jake!
Hey, can I party too?
What are you doing?
Cool.
Jake!
Now, get the keys, get the money. Jump in the car, jump in the car.
Do you have any dreams?
Wants. Compromise.
It's like future dreams. Nobody's ever asked me that.
You think you're special?
I am not here.
You don't mean nothing to him.
Du coup, c'est Sacha Lane, vit à Moscow-Ji, une vie dans l'Oklahoma, du coup, une vie douloureuse s'occupant de deux enfants qui ne sont pas les siens et vivant avec leur père sexuellement violent, Nathan. Un jour, alors qu'elle rentre chez elle en stop, elle aperçoit une camionnette pleine de jeunes gens et établit un high contact avec Jake, incarné par Shia LaBeouf. Elle les suit dans un Kmart local, donc l'équivalent de Carrefour, on va dire, aux États-Unis. Un Kmart local et voit dans Jake danser sur We Found Love avant d'être expulsé. Ils sont tous expulsés par les agents de sécurité. Superbe scène, enfin, la scène est géniale. Star tombe sous le charme de ce faux prince charmant, comme on a beaucoup chez André Arnold, et accepte de les suivre au Kansas. Littéralement le Kansas, hein. Je veux dire, allons au Kansas, Sandos, tout ça, etc. Bref, je trouve que c'est, voilà, on est en compte. En acceptant un emploi au sein de leur équipe de vente de magazines. S'ensuit alors un road trip qui marque une nouvelle étape dans la filmo d'Arnold. Changement de lieu, de pays, mais toujours avec les thématiques de ses précédents films, dont les marginaux et la toxicité masculine. American Honey n'est-il pas un peu la synthèse parfaite du cinéma d'André Arnold, messieurs, pour vous, d'une certaine manière?
Alors d'abord, je voudrais raconter une anecdote qui vient d'une interview faite par ce film,
ouais,
sur la jeunesse d'American Honey.
Ok.
André Arnold dit, par rapport à un festival, qu'elle n'a finalement pas monté dans l'avion, il n'y est pas allé, parce que c'est aller de festival en festival, c'est quelque, oui, chose qui la frustre un peu.
Ouais.
Et elle dit, à la place, j'ai loué une voiture et je me suis lancé dans le premier d'une série de road trips que j'allais faire aux États-Unis. J'ai pris un petit déjeuner dans un diner et j'ai suivi à la lettre ce que m'avait conseillé la serveuse sans même réfléchir. Je ne me suis pas posé de questions, je n'avais même pas de carte routière et j'ai continué comme ça jusqu'à Los Angeles. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'American Honey.
Ce qui est très cohérent avec le film.
Quoi, il en faut peu. Hein.
Ce qui est très cohérent, oui, avec le film, parce qu'en fait, il erre sans destination,
oui,
sans
but,
au préalable.
Mais ouais. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai.
En plus, elle dit, j'ai dansé tous les soirs sur les routes des États-Unis au milieu de nulle part.
Voilà. Donc,
voilà comment est né un des meilleurs films américains réalisés par un britannique de ces dernières années.
Facile. 10 dernières années, oui.
Ouais, 10 dernières années, ouais.
Oui, facile. Ah non, mais je suis assez d'accord.
En plus, un regard sur les États-Unis, ouais, sur des Américains défavorisés par une Britannique.
Par une Britannique. Oui. Et on voit aussi comment est-ce qu'elle arrive à voir les distinctions, les différences et en même temps les liens qui sont liés entre les pays. En fait, et la misère sociale et en même temps les marginaux. Parce que American Honest, c'est vraiment... En même temps, en fait, on pourrait le voir au titre. En fait, si on ne connaît pas du tout André Arnold, c'est un espèce de... Comme je disais en off, en fait, ça fait penser à un titre d'un Sissy Dance ou un truc dans le genre.
Oui,
et s'approprier... Ou Spring Breakers, c'était le piège avec Spring Breakers d'Harmony Corrine. C'était le piège. Tu ne savais pas dedans, ce que tu allais voir. Parce qu'en fait, il y avait plein de jeunes qui avaient été voir Spring Breakers sans
en
savoir...
En première,
juste,
au Grand Rex.
Au Grand Rex avec American... Harmony Corrine. Et j'y étais en plus.
Ah, t'y étais ?
J'y étais.
Ok. Du coup, t'as vu le discours d'Harmony Corrine qui a dit « Je ne sais pas ce que vous êtes venu chercher. »
Ouais, je ne sais pas ce que vous êtes venu chercher, mais vous ne le trouverez pas ici.
Vous ne le trouverez pas ici, ouais.
Et c'est un peu ça pour American Honey aussi. Hein. Vous n'avez pas trouvé juste un espèce de Sissy Dance où la meuf va danser dans le désert ou alors... dans l'Oklahoma, quoi, parce que c'est pas vraiment le désert, hein, l'Oklahoma, mais y a cette espèce de encore une fois, du coup, Jake, qui est un peu l'ersatz de Michael Fassbender,
oui, un peu,
totalement
dans la lignée,
dans Fish Tank, c'est totalement ça, et aussi, du coup, cette jeune adolescente, adulte, conflit avec les parents, elle devient une espèce de fausse orpheline, elle quitte le foyer familial, et pour le coup, ça y est, elle s'en va. Elle s'en va pour le coup. Là, le personnage est quasiment dehors tout le temps.
Et c'est pour ça que moi, je considère American Honey comme le vrai cap dans la filmographie d'André Arnold.
Ouais, mais elle s'en va, elle s'échappe. Et en plus, elle passe, fait une production américaine.
Oui.
Donc là, pour le coup, c'est vrai pas en avant.
C'est produit par A24, d'ailleurs.
Hein.
C'est A24 qui produit le film et tout,
C'est un vrai pas en avant. Et pour le coup, c'est... Et en même temps, en fait, on sent toujours qu'il y a le poids du passé qui traîne derrière. En fait, c'est toujours ça, malheureusement. Et en même temps, il y a espèce attachée au rêve, elle s'appelle Star, A Star Is Born. J'étais obligé.
Oui, Lady Gaga.
Ouais, tu dis, et vous voulez me tuer. Chachalo. Et
je commente la tête désespérée de Teddy.
Ouais,
il est désespéré. Qui tourne les pages de son saut film. Désabusé en se demandant qu'est-ce qu'il est.
J'avoue, mais qu'est-ce que tu viens de dire?
Qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Ça va, Teddy?
Non, mais c'est une espèce de Star. Non, je rigole, c'est pas Star Is Born, évidemment,
non, mais
c'était pour la vanne.
C'est un peu Star Is Born, quoi, un peu. Ouais, un peu.
Non,
mais je vois ce que tu veux dire un peu. Oui,
non, mais bref, non, plus sérieusement. Oui, je sais, je t'aime beaucoup, Teddy.
Teddy écrit à l'aide sur papier et le montre à la fenêtre. Il y a personne à la fenêtre, Teddy.
Il y a personne
à côté.
Non, plus sérieusement, elle s'approprie du coup le code.
Venez m'aider.
Elle s'approprie notamment le nouvel Hollywood américain, une partie en fait qui est le road movie, ou alors le déplacement, la mutation de la capitale des grandes villes vers les territoires abandonnés, déserts. Ça, c'est un des trucs les plus très importants du cinéma américain, qu'elle arrive à s'adapter à ça. Et en plus, c'est cohérent avec son cinéma, comme on vous disait, on se déplace des villes aux lieux défavorisés. Et en fait, on voit aussi comment est construit les États-Unis, qui est un pays en pleine mutation, parce qu'on est en quoi ? On est en 2016 ?
Ouais, oui, 2016.
Donc, le pays va opérer un changement assez radical.
Trump ou pas ? Ou c'est en plein Trump ? Non, c'est pré-Trump.
Non, c'est au moment où c'est juste avant son élection.
C'est juste avant son élection. Ouais. Donc, en fait,
on est
à la fin des années Obama, quoi. Mm. Et là, on s'apprête à passer aux années Trump, la première année.
Premier mandat.
Tumultueuse et en même temps pas si contrairement à ce qui va arriver bientôt, mais bref, c'est pas le sujet.
Je veux juste rebondir sur un truc que tu disais sur les comment elle se nourrit de ce qu'elle a fait en Grande-Bretagne pour faire American Honey. Parce qu'American Honey, c'est un road trip, c'est clairement dans les pitchs du film, mais je sais pas si vous avez remarqué, elle ne filme jamais la route en entier comme dans certains films. Quand ils sont sur la route, elle filme ce que les personnages voient à travers les vitres, et donc elle voit
les écrans, les fenêtres qu'on voit toujours chez elle, ce sont les reflets d'un rêve qu'elle veut acquérir et vouloir s'émanciper d'une certaine misère sociale. C'est surtout ça. Ouais, mais c'est vrai, pour le coup...
Elle ne filme pas le road trip, elle filme les États-Unis.
Oui. Et surtout, comme on l'a dit, d'un pays en pleine métamorphose, qui est un pays... à la fois en fait qui a les racines de son passé masculiniste,
oui, tout à fait,
et en même temps de femmes qui prennent enfin le pouvoir, l'indépendance,
surtout que le personnage qui est à la tête du groupe de vendeurs de magazines, c'est une femme.
Oui,
Oui.
Donc déjà, il y a un truc qui... Mais pourtant, il reste toujours les marginaux de la bande. Évidemment. C'est ça, en fait, qui est l'ironie du sort. Mmh. C'est, elle s'affirme, et pour autant, elle s'affirme à la tête du prisme marginaux de la chose, quoi. Et en plus, les décors, comment elle s'approprie les décors américains...
Bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans American Only, c'est comme le premier film d'Arnold où elle s'autorise des digressions narratives et esthétiques. Ouais. C'est... Autant dans le Fichetang qu'il y avait déjà la présence de la nature, etc. Oui, mais c'était très linéaire narrativement.
Ah oui, ouais.
Là, elle intègre pour la première fois des images de la nature, même des animaux,
ouais.
Mais sans que c'est de lien avec le récit qu'elle est en train de raconter.
Ah oui, c'est juste vraiment la nature, l'émancipation, vraiment le voyage vers autre chose qui est marqué. En plus, le film, il est long. Hein. Moi, j'arrive pas... Ouais. Pour moi, dans ma tête, il durait que 2 heures, quoi. Donc, ouais. Bref, je sais pas pourquoi.
Moi, je mentirais si je disais qu'au CSN, à l'époque, quand je l'avais vu, je l'avais pas senti un peu 2h40 quand même passé.
Ah non, moi, j'avais pas du tout. J'avais jamais senti les 2h40.
Un peu. Mais ça va, ça participe au truc, en fait. Je trouve que ça participe au voyage, d'une certaine manière, tu vois. C'est un voyage.
Et du coup, comme tu disais, ouais, une transition vers autre chose, quoi. Mm. Et surtout le film qu'elle fera après, qui est totalement un documentaire, quoi.
Et aussi, en parlant de digression, des transitions dans son cinéma. Parce qu'on part en off quand on écoutait la bande-annonce qu'on a diffusée.
Ouais.
On se disait qu'on avait envie de revoir le film grâce à la bande-annonce. Et la est-ce que vous avez remarqué que c'est quand même son premier film où elle utilise vraiment la musique?
Ah oui, c'est vrai. C'est oui.
Alors que moi, la musique est toujours un petit peu présente, mais elle est le truc secondaire de la chose. Et là, pour le coup, c'est le premier.
Là, il y a de la vraie musique populaire là.
Ouais, We Found Love. Au moment où ils se font expulser, quoi.
Ouais,
c'est assez fort comme truc. Même la musique de fin qui est la musique dans la bande-annonce.
Donc, qui est géniale.
Ouais.
La scène finale avec le feu et tout là dans son
truc. Ah oui, c'est génial. Espèce de libération flamboyante. Oui,
mais le film t'achève. Hein.
Ouais, voilà.
C'est une folie, quoi. Enfin, pour moi, c'est un de ses meilleurs. Voilà.
Ouais.
C'est
un de ses meilleurs. Commencez pas par celui-là.
Non,
c'est pas. Parce qu'en général, en fait, les films où.
J'ai un peu fait la bêtise du coup de.
Étrangers. Moi, réalisé par des cinéastes qui ne sont pas américains, en général, on dit toujours que ce sont les films accessibles parce qu'en fait, c'est le codex pour les étrangers. Et là, ce qui est ironique, c'est que ce n'est pas du tout le codex, c'est que c'est la continuité totale.
Ouais.
Donc en fait, il faut faire très attention. Et c'est
un nouveau cas pour Andrew Arnold. Là, franchement, oui.
Et moi, j'ai commencé du coup par ça. je peux vous dire que c'est,
c'est un vrai coup de poker. Et
Fichetang et après American Honey.
Ouais.
Là, pour le coup, les deux se suivent vraiment très, très bien. Et il y a toujours cette cohérence, évidemment, mais... il y a vraiment pour le coup il y a ce truc de faut faire attention, c'est pas comme un Snowpiercer Bong Joon-ho où vous pouvez sans connaître Bong Joon-ho et vous allez avoir le codex de Bong Joon-ho. Là, pas vraiment, parce que justement elle se sert elle se sert du fait qu'elle va aux États-Unis pour faire un truc qui lui permet de s'évader, de s'échapper, donc en fait elle va aller vers autre chose. Là, on y va, quoi. C'est faut passer à autre chose, faut aller à la nature, faut aller aux racines même de la chose.
C'est clairement pas un road trip traditionnel du cinéma américain.
Non, pas du tout.
Mais je me trompe ou tu utilises un truc un petit peu en parlant de Snowpiercer et de Bong Joon-ho, je sais pas, moi.
J'ai pas fait exprès pour le coup.
T'as pas fait exprès, d'accord.
Non.
Okay. Parce que c'est toujours le premier film
qui vient à la tête.
Ouais, mais c'est vrai que oui, c'est vrai.
Non, mais oui, parce que voilà, bref.
Oui.
Du coup, vous avez capté. Mais parce qu'en général, les gens commencent Bong Joon-ho avec Snowpiercer.
Oui, c'est vrai.
Non, en général, ils l'ont découvert à Snowpiercer et ils se sont pas rendu compte que c'était Bong Joon-ho qui avait réalisé Snowpiercer.
Ouais, c'est vrai.
Mais à la fois, c'est un codex et après, on s'en rend jamais compte que c'est eux. Alors qu'American Honey, moi, je le relis directement à Andrew Arnold.
Mmh.
Ce qui est toujours ironique avec les films, par exemple Stalker de Park Chan-wook, je sais que c'est un film de Park Chan-wook, mais pour autant, si tu dis pas que c'est Park Chan-wook, tu le vois pas, et en même temps, c'est les codex des cinéastes. C'est ça qui est toujours étrange avec ces films-là, et là, American Honey, c'est un des seuls qui tire son épingle du jeu, je trouve, sur les productions américaines.
Parce que ça reste très Arnold.
Ah ouais, pour le coup, ouais. Alors que j'aime bien Stalker, j'aime bien Snowpiercer et tout, hein. C'est des films que j'adore, mais American Honey, ouais, c'est vraiment le seul où il ne faut pas une digression, pour le coup, de leur filmographie, alors que dans son film, elle fait beaucoup de digressions. Je trouve ça assez drôle. Bref.
Mais du coup, justement, pour rester dans la continuité de ce que tu dis, American Honey, on se semblait aussi lui ouvrir un peu une porte aux États-Unis, puisqu'en fait, elle va réaliser après la deuxième saison de la série Big Little Lies, que je n'ai pas vue. Je n'ai pas vu la deuxième saison.
Non, moi non plus.
J'ai vu la première.
Moi, j'ai vu aucun épisode.
Aucun. Moi, j'ai vu la première qui était vraiment très bonne. Et... mais je crois que c'était Jane Campion qui était derrière, si je ne me trompe pas, sur la première saison.
C'était Jane Campion.
C'était Jane Campion et c'était très réussi. Mais il paraît que la saison 2 est tout aussi bonne, apparemment. Enfin voilà, et il y a Meryl Streep qui sont rentrées dedans et tout. Enfin, apparemment, c'est vraiment très bien. Mais voilà, mais c'est assez différent vu que c'est André Arnold qui réalise entièrement la série, enfin entièrement la saison 2, c'est tous une fois l'épisode fait par
elle. C'est pour ça qu'American Honey est un cas possible pour elle professionnellement, parce que ça lui ouvre les portes internationales.
Totalement, c'est ça qui est fou. Et du coup, après la deuxième saison de la série Big Little Lies, du coup, elle revient au cinéma en 2021, quelques années quand même après.
Avec un projet très surprenant.
Avec un projet très surprenant, que c'est pas de la fiction, c'est son premier documentaire qui est consacré au quotidien d'une vache laitière et baptisé, du coup, le film est baptisé sobrement Cow. Voilà, vache en anglais. Au cas où, pour ceux qui ne sauraient pas. voilà, mais du coup, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Messieurs, est-ce que du coup, Co, ça fait me?
Est-ce que ça émeut?
Est-ce que vous avez été émeut par Co? Bon, on arrête les blagues avec les.
À l'aide.
Ouais, à l'aide.
À l'aide, ouais, j'avoue, à l'aide.
On est tous fatigués, aidez-nous. C'est, en fait, ce site est un appel à l'aide.
C'est le en général.
Le me est un appel à l'aide pour cette émission. Voilà. Mais du coup, non, ça va plus sérieusement, messieurs, du coup, c'est, pourquoi du coup, c'est un. Je sais, je dis beaucoup de coups, ça va, c'est un article de langage. Bon, c'est un nouveau cap, du coup, t'es dit.
Non, parce que je disais avec American Honey que American Honey était un nouveau cap.
Oui, mais est-ce que Co est un nouveau cap dans le sens où c'est son premier documentaire, quelque part?
Non, pas forcément.
Non, pas forcément pour toi, d'accord. Okay, bon.
C'est un documentaire, mais pour moi, elle retrouve des thématiques de Fish Tank, de Haut du Hurlevent.
Okay.
Ça peut être même si c'est une vache laitière, c'est une femelle. Et donc, il y a encore la question de la femme, de la place de la femme au sein d'un environnement qui ne fait que les accabler.
Oui, et surtout qu'on sait en général que c'est les hommes qui détiennent les fermes et etc. Donc en fait, même documentaire, en fait, on pourrait dire que de toute façon, la manière dont elle filme le prolétariat anglais est quasiment documentaire. Donc c'est.
Mais il y a quelque chose toujours de très terre à terre avec elle.
Et fallait juste en fait affirmer la chose. Elle a dit bon, je fais officiellement un documentaire. C'est juste la marque officielle, quoi, le titre officiel, je pense. Et aussi, comme on disait, c'est ce qui était très intéressant, c'est comme tu disais, c'est vrai, c'est l'enchaînement entre American Honey et du coup Cow, parce qu'il y a toujours une continuité dans son cinéma. C'est le pessimisme après American Honey qui était vraiment le feu final, le feu de joie, du coup, de la libération, de on y va quoi.
Alors que ce documentaire Cow est très pessimiste.
Le road movie final américain, alors que normalement, souvent le road movie américain se finit mal. C'est souvent le cas,
oui, c'est vrai.
Alors que là, c'était un peu l'inverse, je trouvais, dans American Honey.
Là, il finit quand même assez joyeux, donc.
Ouais, c'était vraiment l'inverse. Parce que si on se souvient de, je sais pas, de Bonnie and Clyde, c'est complètement l'inverse.
Ah oui, là, c'est clair.
C'est la fin pessimiste, hein, c'est la mort de l'Amérique. Hein. Donc, là, il y a Cow qui arrive. On a une espèce de terre à terre, c'est gris. Mais en même temps, il y a l'herbe verte. Il y a la vache qui est très colorée. Et on voit le matériel qui l'entoure. C'est gris, c'est sale. Ça l'entoure, on voit des bouts de mains, on voit un tronc, on voit des jambes.
Il y a toujours quelque chose, un motif pour l'oppresser, en fait.
Ouais, il y a toujours quelque chose qui va l'entourer, et du coup, les machines qui servent à traire le lait, etc. Et en fait, même l'environnement dans lequel elle se. Où forcément elle est obligée de rentrer pour pouvoir exercer ses fonctions de vache, pour le coup, c'est quelque chose qui entoure, et que. Vu que du coup, son cinéma s'était échappé à l'intérieur, du coup, revenir à une vache qui est un des êtres vivants les plus enfermés qui existent au monde, quoi. C'est-à-dire qu'on la voit on verra jamais une vache marcher dans la rue, quoi. On
non.
Verra pas.
Ce serait un peu étrange, quand même.
Il y avait pas une ref avec André Arnold qui disait,
dans une interview.
C'était pour te lancer.
Elle disait, par rapport à quand elle filme la société et puis les quartiers où elle filme, elle disait on aurait tous besoin d'avoir des vaches au bout de notre rue.
Voilà.
Oui, c'est vrai.
C'est juste, j'avais pensé et du coup, ça me faisait penser à ça. Et du coup, il y a toujours ce truc d'oppression Et du coup, c'est là, et surtout qu'en plus, c'est beaucoup plus matériel qu'avant.
Ouais.
Pour le coup, il y a vraiment une notion matérielle de la chose, ou à contrario de la vache, quand elle n'est pas en tournée matérielle, c'est là où il y a plus de rêverie dans le film.
Oh,
il y a
c'est là où on retrouve la poésie d'André Arnold.
Ouais, c'est vraiment la poésie. Et après, dès qu'on retourne au matériel, c'est d'où en fait on disait que justement, elle s'accroche pas au matériel. C'est que le matériel est là définitivement de chaos. C'est quelque chose qui va l'opprimer jusqu'à la fin de l'existence de cette vache. Quoi.
Bah, le matériel, dans le chaos, c'est la définition du malheur.
Ah oui.
Et de la mort.
Oui, voilà.
On la pompe de son énergie, de l'exploitation, etc.
Parce que le but d'une vache, c'est qu'on la traite pour extraire son lait. Donc en fait, quelque chose qu'elle produit, quelque chose de vital.
Oui.
Pour le donner à d'autres, à des êtres
jusqu'à humains. Jusqu'à la naissance du veau qui se fait dans un enclos. Donc,
Oui.
Tout à fait.
Et on prélève, et il y a toujours quelque chose de... Le matériel va prélever le vivant, toujours.
D'accord.
Oui, et moi, ce qui me fascine aussi avec Kao, c'est que dans tous ces films, il y a le rapport aux bestiaires, aux animaux, et le lien entre ses protagonistes et les animaux, où les animaux ce sont les seuls qui lui apportent l'affection et la poésie possible qu'on peut donner à un être humain. Et là, dans Kao, il n'y a pas d'être humain à qui elle donne ça, la vache, mais elle donne ça aux spectateurs du film. En filmant directement la vache qui devient le centre du film, c'est le spectateur qui,
son point de vue, du coup,
qui reçoit le rapport au bestiaire d'André Arnold.
Oui, parce qu'on la filme de face, on la filme presque de son point de vue à des moments, presque de son point de vue, quoi. Mais il y a vraiment ce truc de... vous avez souvent cette affiche en fait, de Kao, où en fait, c'est vraiment la tête de la vache en focale courte, en plus. Où en fait, on absorbe la chose, le vivant, et absorber. On essaye au maximum de capturer le vivant dans un environnement qui est un environnement mécanique et de mort, quoi.
Pour questionner notre rapport du coup aux animaux, aux vivants.
À l'exploitation de la nature, quoi. Parce que pour le coup, niveau discours écologique, politique, social, on y est, quoi. Du coup, l'appauvrissement naturel, l'appauvrissement de la chose. On revient toujours à cette Margaret, finalement, quelque part, toujours. On en vient jusqu'à pomper l'énergie vitale.
Surtout vu le matériel et la mécanique qu'il y a dans cette ferme, il y a énormément de vaches en plus autour d'elle.
Ouais.
Il y a énormément de matériel.
Et pourtant, c'est très rudimentaire. On a l'impression que c'est un peu rudimentaire. C'est usé.
C'est très rudimentaire, mais il y a beaucoup de matériel. Et on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui s'en occupent. Donc, même là, on sent qu'il y a quelque chose un appauvrissement qui est la conséquence de politique, etc.
Ouais.
Donc elle subit aussi ça.
Ok. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. je ne peux que vous... Je ne vais pas vous paraphraser.
Et toi, voilà, est-ce que tu as été ému ?
Est-ce que j'avais été ému ? Oui, j'avais été ému, parce que quand même... non, mais sérieusement, voilà. Oui, la fin est terrible, voilà. Mais moi,
Le FIFAM s'en souvient... salut.
Moi, c'était surtout la manière avec laquelle était filmé le regard. Ouais. C'est surtout ça, moi, qui m'avait complètement...
Alors, regard de la vache qui s'adresse directement au spectateur, c'est génial.
C'est un truc, la rendre aussi, en faire un personnage à part entière, quoi, vraiment. Et parfois, t'es
pas anthropomorphique, en plus. Hein. Non, vraiment, elle reste une vache.
C'est juste une observation. Hein.
Ouais. Ah, c'est pas un Disney, hein, c'est sûr. Là, on n'est pas dedans, quoi.
le regard qu'elle a vers le ciel.
Oui. Oui, mais c'est magnifique.
Oui, mais c'est un regard animal, quoi.
C'est ça, mais un regard animal, mais à travers lequel tu vois... tout ce qui anime aussi les personnages arnoldiens, presque un petit peu, j'ai envie de dire, de base. C'est-à-dire que c'est aussi un personnage qui rêve de liberté.
Mais on regarde toujours vers le ciel ou vers des... Oui, voilà.
De nouveaux horizons, voilà, c'est exactement ça, quoi. Et non, je trouve que même dans le documentaire, elle arrive à faire un film d'André Arnold à part entière, et c'est
Terre à Terre, et le film qui a suivi et qui est disponible en salle en début d'année, là, on est à la Terre, là, c'était le ciel, après.
Ouais.
Donc...
C'est vrai.
Donc, voilà.
Du coup, belle transition pour revenir à la fiction.
T'as vu ?
Parce que du coup, cette année... André Arnold nous est revenu avec Bird. C'était le sujet d'un le film. On a parlé du film.
C'était la première de 2025.
De 2025, et on a démarré 2025 sur les chapeaux de roue avec ce film. J'ai envie de dire vraiment, voilà, c'est un
d'une
très
beauté,
beau film.
Toujours d'une beauté phénoménale.
Ah oui, pour moi c'est tout aussi un de ses meilleurs. D'ailleurs, je trouve que c'est assez incroyable. Du coup on l'a déjà évoqué, mais qui représente du coup pour moi un nouvel aboutissement pour André Arnold, parce qu'elle embrasse pleinement aussi une dimension fantastique. Notamment dans la forme du conte qui englobe son cinéma depuis ses débuts, finalement. Mais là, il y a un nouveau...
Là, elle l'assume complètement. Là.
Elle l'assume
complètement. Le crapaud. Voilà. Le
crapaud qui est censé donner de la bave à l'hallucinogène ou
de
la drogue,
donner source
etc.
de l'argent. Ouais.
Mais du coup, vous placez où Bird dans sa filmo? Du coup, toi, t'es dit, pardon, tu le places où tu...
enfin, pour moi, c'est encore une nouvelle étape qu'elle franchit.
Oui,
parce que là, elle accepte pleinement le fantastique.
Tout à fait.
En mode, le réel, maintenant, est devenu tellement immonde et tellement invivable
Bah, d'où la
que
fin
maintenant,
de K.O.
il faut complètement s'en affranchir et se créer un nouvel univers. Pour moi, c'est ça. Bird, c'est se créer un nouvel univers.
D'accord. Oui, oui.
C'est plus essayer de s'adapter adapter l'univers dans lequel on vit et qui est rempli de misère comme ses précédents. Là, c'est on crée un nouvel univers complètement.
D'où aussi le passage officiel au documentaire où donner sa fin la plus pessimiste à sa vache du coup.
Oui.
Parce que du coup, bah en fait, on peut plus là le réel, on peut plus y vivre dedans quoi. C'est plus possible.
On a tellement
appauvri. Notre planète, on l'a tellement aussi, même les gens en fait ont été épuisés et saurés que en fait, bah maintenant c'est croire au mythe et au rêve, c'est ce qui nous reste encore à nous
accrocher. Croire en la fiction.
Ouais, c'est croire en la fiction.
D'accord. Bon moi aussi c'est un nouveau cap franchi.
Avec une très belle utilisation de Yellow de Coldplay.
Ah oui.
Oui.
Une des meilleures.
Oui, tout à fait. Oui. Ça redore cette chanson pour moi, au passage. Mais c'est pas ma chanson préférée de Coldplay, j'avoue. C'est pas la meilleure pour moi.
Ça, c'est scientifique.
C'est laquelle celle-là déjà?
C'est dans un deuxième album ça. Peut-être. Ancien fan de Coldplay.
Peut-être. Ouais, je suis pas aussi fan non plus, mais voilà. Mais non, je parle d'une chanson qui était souvent dans. Je crois que c'est Paradise qui était souvent dans la bande.
Ah oui.
Dans les bandons, c'est tout. Je l'ai trop entendu. Ouais,
déjà que la chanson est pas bien, alors bon.
Ouais, voilà, quoi. C'était la bande de la chanson de la bande de l'Odyssée de Pi, je me rappelle à l'époque. C'était un truc c'était au cinéma.
C'était horrible, les gens voulaient pas voir l'Odyssée de Pi alors que c'est trop bien. Bref.
Ah, c'est dommage. C'est un super film, oui.
Mais pour venir sur Bird.
Oui, non.
Oui, bien sûr.
Je voulais juste aussi dire par rapport à la manière de vraiment accepter pleinement le fantastique, que maintenant le bestiaire il va plus seulement sur les titres des films mais sur les noms des personnages.
Oui, c'est vrai.
Que son père dans le film il s'appelle Bug, c'est littéralement, ça veut littéralement dire insecte.
Oui,
littéralement. Et son frère s'appelle Hunter, c'est le chasseur.
Oui, on est dans la fable, hein. Enfin, dans le conte, la fable, on est dedans pleinement quoi. Voilà, donc c'est un aboutissement.
Et, qui va apporter le rêve, bah, c'est Burn quoi, donc l'envol. Même en fait, directement, elle commence son film par l'écran de téléphone qui est le nouveau reflet, celui qui nous permet de créer les nouveaux imaginaires. On les voit à travers nos téléphones, quoi. Qui est un discours qui paraît naïf, hein, pour le coup. Moi, naïf dans le bon sens, attention.
Mais c'est pas tant naïf que ça, parce que la manière de vouloir se créer un nouveau monde, un nouveau réel, ça passe du coup par le téléphone et avec des scènes où les images du téléphone sont projetées sur le mur,
sur le
délabré
mur.
Et plein de graffitis de son appartement.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire vraiment beaucoup.
Elle se crée une nouvelle fenêtre. Carrément, les personnages créent la fenêtre cette fois-ci.
Et elle rêve encore de liberté.
Oui.
À travers un téléphone.
D'où en fait le renouvellement, parce que c'est peut-être la première fois que les personnages d'André Arnaud créent la fenêtre.
Oui.
Littéralement.
C'est vrai.
Voilà.
Mais voilà. Mais du coup, bah, là, on a fait le tour d'horizon de sa filmo. Hein. Du coup, quelque part, on en arrive pas au terme, j'espère quand même. J'espère qu'elle va nous revenir bientôt en plus, t'as dit. Toi, t'es au courant.
Oui, elle est en pré-production d'un film aux États-Unis. Elle revient aux États-Unis. Sur une femme qui travaille au FBI et c'est incarné par Scarlett Johansson qui coproduit aussi le film.
Est-ce que ça va être un thriller peut-être ou...
Il me semble que oui.
D'accord, donc elle reviendra au thriller Pierre Red Road.
J'ai plus le pitch en entier, mais.
D'accord.
J'ai très hâte. Et ça donne très envie.
Ça donne très envie.
C'est inspiré d'une histoire vraie en plus.
D'accord. Ok. Ah ouais. Ok, d'accord.
Ça
donne envie. Du coup, avant de terminer cette émission, la petite question. La petite question qui... Voilà.
La question difficile.
La question difficile, forcément difficile. S'il fallait retenir un seul film d'André Arnold, ça serait lequel? Et s'il vous plaît, pas tous Fish Tank. Voilà.
Ouais, non.
Voilà.
C'est trop facile.
Il y en a un qui peut dire Fish Tank, vous vous mettez d'accord. Mais
ce ne sera pas moi.
Ok. Et bah non. Est-ce que toi, c'est Fish Tank, du coup?
Je voulais éviter de dire Fish Tank.
Tu peux le dire.
On l'a déjà dit, voilà. Mais non, bah, on l'a déjà dit. Donc en fait, je vais dire Wasp.
Ok, tu veux
je maintiens Wasp.
Quoi? Je choisis un court métrage, je veux se la péter. Voilà.
Mais non, quand tu le verras,
c'est un embryon.
C'est vraiment très important, Wasp.
Non, mais bien sûr.
Ouais,
bien sûr,
Wasp est très important, c'est vraiment l'embryon. Quoi. C'est l'embryon que ça pète à net. Quoi. Donc,
Et en plus, Wasp, pour l'anecdote, c'est quand même très autobiographique.
Ah ouais, pour le coup, ouais.
C'est Codex aussi, voilà.
C'est vraiment.
André Arnold, qui a eu quand même trois frères et une sœur, c'est vraiment pile ce qui est dans le court métrage.
D'accord. Okay.
Ouais, c'est pour ça que vraiment pour le coup il y a tout l'ADN de son cinéma déjà qui est dans son court métrage, assez impressionnant pour le coup. Réussir à tenir toute sa filmo dans un court métrage, c'est assez impressionnant. Donc j'irais peut-être commencer par Wasp en vrai.
Okay.
Parce qu'on disait de manière chronologique, on en parlait en off, de faire ça chronologique. Bon, évidemment, il y a Milk avant. Mais en vrai, profiter d'acheter en fait, le Blu-ray de Fish Tank.
Oui, voilà. Mais
pour le coup, acheter le Blu-ray de Fish Tank, parce que déjà, Fish Tank est un chef-d'œuvre. Et deuxième, bon, le meilleur coming of age de ces 20-30 dernières années. Pas bref, si allez, bisous. Ouais. Voilà, c'est la fin de l'émission.
Et achetez mon bouquin.
Et achetez le bouquin de Teddy. Voilà.
Mais me devancez pas, je vais refaire la promo après. Me devancez pas, je vais refaire la promo après ton bouquin.
Non, mais je rigole. Non, non. Non, mais ouais, commencez par Wasp et évidemment Fish Tank. Ouais, si vous voulez, un long métrage.
Par Wasp et Fish Tank. Et du coup, je rebondis. Ce qu'on disait en off, c'est que quand on voit la filmographie dans Arnold de manière chronologique,
c'est très cohérent.
Tout prend sens et limite, on peut réévaluer certains films. On peut avoir vu à la volée comme ça juste avant. Mais quand on prend dans l'ensemble chronologiquement, tout prend vraiment sens et on voit les étapes de sa filmographie.
Mm-hmm. Ok. Et du coup, si il fallait en retenir un, du coup, c'est...
Moi, je retiens Les Hauts du Relevant.
Voilà, toi, c'est ton préféré.
Ouais, pour moi, c'est son meilleur. Après, ils sont plus radicales, mais oui, moi, c'est ce qui me plaît. Moi, c'est celui que je retiens. Okay. Parce que moi, qui est un grand fan de la mise en scène des paysages et de l'importance des paysages, là, c'est le film Arnold où les paysages ont le plus d'importance.
Ok, bah moi je vais dire Bird, voilà.
Voilà,
je dirais Bird parce que c'est son aboutissement ultime pour moi, je pense. J'adore Fish Tank aussi, hein, mais Bird, elle.
Ouais, moi je reste sur Fish Tank.
Voilà, pour pas vous paraphraser, je trouve qu'elle franchit de nouveau un cap, comme t'as dit, et elle embrasse pleinement cette dimension fantastique. Et j'adore cette scène où la dimension fantastique ouvre littéralement ses ailes, sans mauvais jeu de mots, voilà.
Je me rappelle parce qu'on a vu le film ensemble.
Oui.
Moi, je l'ai revu, je l'avais découvert.
Tu savais déjà, ouais.
Mais j'ai regardé ta réaction, t'as été vraiment surpris à cette scène-là.
Ah oui, je m'attendais pas à ça et j'adore la scène. Je trouve qu'elle est superbe, qu'elle est totalement cohérente.
La transition avait déjà été faite avant quand il y a l'oiseau qui va porter la lettre.
Oui, et c'est une super scène aussi, ça d'ailleurs. Oui. Moi, je trouve que l'effet de l'oiseau qui se pose sur son bras.
Qui commande en fait, commande la nature, on y va quoi. Tu sais, c'est comme si c'était une guerrière.
Ah ouais.
Vraiment qui commande les animaux et on y va quoi.
Puis elle est badass.
Comme si d'une héroïne qui sort des histoires grecques, romaines, etc. quoi. On est quasiment là.
Et on dit tout ça en sachant que les films d'André Arnold se font très peu de moyens. Ouais. Elle a galéré à produire Bird.
Tu m'étonnes.
Avec pourtant peu de moyens.
Et l'effet spécial sur Bird est très réussi.
Et même une scène sans effet spécial. Imaginez la logistique, la technique
pour faire voler l'oiseau pour qu'il aille sur le truc.
Pour filmer quelqu'un qui est sur une trottinette électrique.
Ah oui, putain, ouais.
Pour suivre une personne qui est en trottinette électrique, logistiquement et techniquement.
C'est instable.
Mais ouais, parce que Arnold filme caméra à l'épaule. Donc, déjà, réussir à faire ça, pour moi, on s'en rend pas compte.
Balèze, la super musique de Fontaine d'ici, d'ailleurs, en plus.
Ah bah oui.
Musicalement encore, c'est génial. Oui. Non, mais voilà.
Qui prend encore le pas, une fois, avec Alain Cannonet. Comme on dit, il y a toute une cohérence.
Oui. C'est une filmo très cohérente, du coup, et c'est une cinéaste qui a déjà une très belle œuvre, mais qui, je pense, va continuer à...
Et que moi, j'hésite pas à dire, à chaque fois que je parle d'elle, que c'est parmi tous les cinéastes, hommes et femmes en Grande-Bretagne, c'est actuellement la plus importante et la plus influente.
Oui. Ah bah, elle a redéfini ce qu'est le réalisme britannique contemporain. Elle l'a redéfini, donc oui, elle est importante. Elle a marqué une page majeure du cinéma britannique.
Clairement.
C'est clairement ça, en fait. Et voilà, et c'est important, du coup, d'en parler. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument faire ce mensuel aujourd'hui sur une cinéaste majeure.
On espère qu'on vous a donné envie de voir les films. Si vous n'avez pas pu voir Bird en salle.
Oui, il est resté 2 semaines au Saint-Leu, mais voilà. Mais...
Peut-être qu'il va passer
Il sera en VOD dans pas longtemps.
Donc voilà.
Et en tout cas, en attendant, vous pouvez aller voir ses précédents films. Voilà, pour
qui sont tous en VOD, donc.
Voilà, qui sont tous assez trouvables. Donc,
pour le coup, ça va.
C'est accessible. Ça va. Il y a des cinéastes, autant parfois leurs films ne sont pas toujours accessibles.
Même les courts-métrages sont accessibles.
C'est
ce qui est très rare.
Ouais, c'est rare. C'est rare. Voilà, donc ce sera le mot de la fin, du coup.
Ouais.
Ce sera le mot de la fin. Et voilà, c'est ainsi que s'achève Parlons Cinéma mensuel pour ce mois-ci, consacré à la carrière de André Arnold. Je remercie bien évidemment Adam de m'avoir accompagné de nouveau fidèle à son poste. Merci Adam.
Mais je t'en prie.
Et je remercie également Teddy de nous avoir
rejoint à nouveau dans cette émission
pour parler du cinéma d'André Arnold, que tu évoques dans ton ouvrage Nouvelle Voix du cinéma britannique, qui est dispo, comme je le rappelle, aux éditions du Net.
Achetez-le,
c'est important.
Achetez-le, s'il vous plaît.
Achetez-le. Il faut que Teddy mange des patates à la fin du mois. Voilà.
Que je me fasse des pâtes.
Et évidemment, tu seras à ton festival, forcément, Rencontre du cinéma britannique.
Évidemment, j'y serai.
Pour la deuxième émission qui se déroulera du 5 au 8 juin prochain, toujours à Ville. Voilà. J'y serai aussi, peut-être sur le
monde. Ouais, voilà.
J'espère.
On y sera, j'espère quand même, voilà. Et quand Quant à vous, chers auditeurs, on vous remercie également d'avoir été de nouveau à l'écoute cette semaine sur Radio Campus, là où nous parlons ciné la mensuelle. Salut à tous et à vendredi du coup.
Ciao.
Ciao.